tout à fait. Alors, comme vous l'avez vu, je ne suis plus à l'Institut des sciences de l'évolution, je reste toujours CNRS, mais pour pouvoir travailler mieux en Asie, j'étais à une mise à disposition au CIRAD et je travaille au Centre d'infectiologie Christophe Mérieux du Laos et à la faculté tropicale, de médecine tropicale comme prof invité à Maïdol Université. Ce que je trouve assez intéressant, c'est d'avoir que l'écologie se retrouve en fait accueillie dans deux endroits dominés par des médecins. Donc, il se passe vraiment quelque chose. Mais avant de continuer, je voulais aussi d'abord, un peu pour tout le monde, remercier Logis Climat, Sylvie et Chantal pour leur effort, leur volonté d'intégration entre ces aspects climat-santé, l'ouverture, je crois que c'était vraiment quelque chose d'important, leur ténacité, surtout Chantal, pour porter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient vraiment baissé les bras pour porter cette journée. Et puis, un grand merci aussi pour toute l'organisation, tout ce qui est derrière, et notamment pour gérer je viens pas. Enfin bon, on a eu quand même pas mal de choses. Voilà, c'était ce qu'il fallait dire. Merci. Donc, l'autre chose, ce que j'aimerais bien faire dans ma présentation, là je suis peut-être un peu long, il va falloir me briefer. Ce que j'aimerais bien faire, c'est de faire justement les problèmes. Pourquoi en fait, qu'est-ce que c'est? Alors, je n'irai pas trop loin dans ce que c'est qu'une écologie de la santé. Mais par contre, qu'est-ce que doit prendre en compte ces aspects globaux? Et après, comment en fait aller vers des aspects locaux? Parce qu'en fait, c'est ce lien entre le global et le local. Et je montrerai à partir de là aussi, dès le départ, plusieurs controverses que nous avons, notamment des controverses scientifiques, des représentations différentes. Et c'est ça qu'on doit en fait aussi travailler. Alors pour vous dire, si vous voulez connaître beaucoup mieux sur l'écologie de la santé et de la biodiversité, vous allez voir un bouquin. Plusieurs d'entre nous ont participé, de Michel Côté-Clair et Frédéric Thomas, sur écologie de la santé et biodiversité, ce qui vous met le lien avec les deux. Donc on sera plutôt biodiversité et écologie de la santé. Et puis deux bouquins qu'on a pilotés, qui sont plus axé médecin, l'autre plus axé vétérinaire et grand public. Allez, derrière, donc, et pour vous présenter, c'est que vous êtes invité déjà aussi au prochain colloque santé-biodiversité qui se fera le 27-28 à Lyon. Voilà. Alors cette relation biodiversité-santé, elle n'est pas nouvelle, quoi. Elle était vraiment dans la FRB, hein, la Fondation Recherche sur la Biodiversité. Elle était aussi dans le programme Écosystème forestier, COFOR du ministère, donc avec le rapport qui a été fait sur changement climatique et biodiversité. C'est vraiment dans les aspects de priorité. On les trouve au niveau national. On les trouve évidemment au niveau international par le Millennium Ecosystem Assessment en 2005, donc Ecosystems and Human Wellbeing, et puis plusieurs publications là-dessus. On le trouve maintenant, donc, au prochain Substack qui va se faire à Séoul, où il y aura vraiment un des aspects, ce sera Health and Biodiversity. Donc, c'est vraiment mis en exergue. Et puis, donc, maintenant, ça fait un an et demi, deux ans que l'IPBS, qui est un peu le GIEC pour la biodiversité, a été lancé, donc est hébergé maintenant à Berlin. Et quand on regarde un peu leur framework, on est vraiment dans ce côté-là où on a Well-being, Health, Resilience qui est au-dessus. Et là-dedans, à partir de là, on a tous les aspects fonctions, outcomes, c'est-à-dire la relation entre société humaine, c'est-à-dire socio-écosystème et fonctionnement de la biodiversité, tout ça au profit de la santé et de la biodiversité. Donc on est dans une auspice très bon et encore meilleur si on voit en fait qu'on a des initiatives internationales qui s'appellent le One Health, qui regroupe essentiellement des gros instituts, hein, enfin, l'Organisation mondiale de la santé, la FAO et l'OIE, l'Organisation mondiale de la santé animale. Et puis on a des initiatives comme EcoHealth, qui sont issus en fait d'initiatives de programmes qui veulent faire par contre le lien beaucoup plus au niveau local, mais avec l'essence sociale, c'est-à-dire vraiment avec des aspects développement en termes de recherche. Alors après, on peut discuter si c'est le même vin, les mêmes bouteilles, enfin bon, ça c'est autre chose. On peut critiquer tout ça. L'importance du global, ça je le remets, c'est surtout pour... donc on a le cadre, on a vraiment le cadre, c'est-à-dire on a le cadre institutionnel, la gouvernance globale et les gouvernances locales veulent aller dans ce sens-là. Importance du global, quand on fait de l'écologie, de la santé et de la biodiversité, elle est importante. Et je reprendrai simplement la petite animation que j'aime bien, qui vient de sortir dans le Guardian. Alors d'abord, non, pardon. Pourquoi aussi la santé? Alors si on la prend, c'est ces papiers qui viennent sortir, notamment la FAO qui montre ça sur son site. Les hotspots d'émergence de maladies infectieuses liées aux animaux, faune sauvage et non faune sauvage, Elles sont partout, mais elles sont essentiellement dans les pays du Nord, sachant que beaucoup de choses viennent aussi des pays du Sud. Donc ça aussi, ça pose aussi le problème du contrôle dans les pays du Sud de pandémies ou de maladies infectieuses qui seraient à émergence globale. Alors, on le retrouve bien, parce que là, on avait repris un papier que Jean-François Guégan avait fait pas mal d'années précédentes, et on est en train de reprendre ça pour voir effectivement qu'est-ce qui se passe au niveau mondial sur les maladies infectieuses et le nombre de pathogènes. On a une augmentation du nombre de maladies infectieuses présentant des épidémies sur les 80 dernières années, mais par contre, on observe une homogénéisation de ces maladies infectieuses qu'on peut estimer notamment par la modularité, qui est en fait par des analyses de network. C'est-à-dire que c'était très modulaire, c'était très pays centré, et puis à partir des années 70, on commence à avoir une diffusion des maladies, et en fait, tout commence à pulser en même temps. Un seul monde de pathogènes. Donc, il se passe quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Justement, j'aime bien cette animation du Guardian qui vient juste de sortir pour le changement climatique. Ben, on a ça à prendre en compte. Quelle est la distribution de la densité de population sur la planète? Quelle est la densité de la richesse sur la planète? On voit déjà que ça se modifie un petit peu. Certains pays commencent à devenir très petits. Quelle est en fait la part du CO2? Donc ça nous intéresse. Qui en fait commence à contribuer à l'effet de serre? Donc on regarde que toujours certains pays ne contribuent pas grand, pas beaucoup. Mais l'Asie, on comprendrait pourquoi je veux bosser en Asie. Et qui va en fait subir la pauvreté? Où elle est. Donc là, on s'aperçoit que l'Asie est toujours là, mais évidemment, l'Afrique devient très, très forte. Et puis, qui va en fait être les peuples, les personnes qui vont être à risque sur le changement climatique, donc qui relie à la fois l'impact du changement climatique, l'impact des changements d'usage, mais aussi la pauvreté et la richesse. C'est-à-dire que c'est corrélé. C'est-à-dire qu'en fait, aussi, les pays asiatiques sont des pays avec une très forte disparité socio-économique. Et puis évidemment, bah, comment expliquer tout ça? Bah, c'est évidemment avec, je pense que si on prend une carte des transports aériens, on le trouve très bien avec certains endroits où on a vraiment l'Asie, l'Europe du Nord et l'Amérique du Nord complètement connectés. Et puis on s'aperçoit bah, que Amérique latine et surtout Afrique sont encore peu connectées dans le mondial. Alors, changement climatique, on en a parlé beaucoup hier. Et je crois qu'on arrive vraiment tous à la même conclusion. Pour l'instant, on a peu d'évidence. On a quelque chose pour nous montrer que le changement climatique directement favorise ou ne favorise pas les maladies infectieuses. C'est beaucoup plus compliqué. Par contre, on a beaucoup de modélisation qui montrent que oui, ça peut avoir des effets ou non. Ça peut avoir justement que des changements d'aire de répartition et qu'en fait, il y a beaucoup d'effets qui sont associés. Et puis, on l'a vu hier, donc c'était ça aussi pour rajouter, que la variabilité climatique et les événements extrêmes sont en fait l'importance du système. Alors on le voit bien, notamment la variabilité climatique, ben l'événement El Niño, La Niña. Si on regarde qu'est-ce qui s'est passé entre la distribution des événements El Niño, La Niña sur le 97-98 ou sur le 2006-2007, on s'aperçoit qu'on a une bonne corrélation entre ces impacts locaux et les épidémies. Dans un sens, enfin, dans une période de sécheresse, d'anomalie sécheresse ou d'anomalie d'humidité. Ce qui va faire, donc même en Europe, on a la même chose. Donc, ce qu'on avait regardé sur 60 années de variabilité climatique, ce qu'ils proposent et ce qu'on a entendu hier, donc on peut faire de la téléconnexion, c'est-à-dire ce que tu nous as montré hier, de bien relier en fait qu'est-ce qui peut être prévoir à plusieurs mois d'intervalle les problèmes de maladies infectieuses. L'intérêt maintenant que je vois en changement climatique, si c'est la réalité climatique qui devient importante, c'est que les nouveaux modèles qui commencent à sortir et qui nous disent que la variabilité climatique peut être affectée par le changement climatique en cours, donc c'est quelques papiers qui viennent vraiment de le supporter, notamment dans Nature Climate Change, là on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Alors je n'ai pas mis le dernier papier, il est sorti il y a à peu près un mois, mais qui montre qu'on va avoir une augmentation réellement des périodes El Niño ou La Niña sur les 50 prochaines années, et après une décroissance, c'est-à-dire à la fin du siècle prochain, on aura potentiellement des baisses de la mousson, parce que à la fois aussi, ça affecte tout le régime de mousson. Alors, comment remettre tout ça en biodiversité, en écologie? Ben, on remet aussi avec les papiers de toujours un peu tout le groupe qui bosse énormément sur ces aspects-là, essentiellement américains. leader dans ce domaine, sur l'impact de la biodiversité. En fait, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est dans ce qu'ils remettent, c'est en premier aspect les changements d'usage des terres, les problèmes de susceptibilité des infections. Alors, changement d'usage des terres, ça veut dire intensification agricole et intensification des industries agroalimentaires. Le bushmeat étant pas si important que ça, c'est-à-dire de manger de la faune sauvage, quoi. Et puis, toute l'importance des aspects d'utilisation ou de mauvaise utilisation des antibiotiques. Alors, si on prend les usages des terres, là, on commence aussi à avoir beaucoup de données. L'extension, surtout dans le milieu intertropical, mais pas que, on voit un peu l'extension des surfaces cultivées. Donc là, c'était le rapport dans les années 2000, c'était un rapport qui était milieu des années 2010. Augmentation faite des surfaces cultivées, l'intensification de ça est particulièrement importante dans les régions intertropicales avec des changements considérables dans les systèmes de production qui se mettent pas simplement pour nourrir les gens sur place, mais qui se mettent dans un commerce international et notamment dans la production d'aliments pour le bétail ou pour les chicken, enfin pour les poulets, tout ça. Exemple, si on regarde la Thaïlande, c'était 1840 surface forestière, c'est comme ça, 1990, c'est ça. Et ça continue. Et quand on regarde, c'était des prévisions, mais qui n'ont pas vraiment changé, on s'aperçoit que les pays d'Afrique, d'Amérique du Sud d'Asie et d'Asie du Sud-Est, tous ceux qu'on a vus jusqu'à présent qui ressortaient chaque fois, sont ceux qui continuent à avoir des changements importants de déforestation, c'est-à-dire de changement d'usage des terres pour des occupations agricoles. Et puis, on a toute une partie qui se met dans une situation de « on reforeste ». Alors, c'est pas de la forêt primaire. La Chine qu'on voit ici, qui foreste à fond, c'est des fois des forêts OGM, notamment du peuplier, quoi. Donc, avec des conséquences biodiversité importantes. Les feux, on en a parlé hier, donc j'ai une carte sur les feux. Alors, quand on a des cartes sur les feux, on voit aussi, encore une fois, qui sont affectés en feu. Pour différentes raisons. On a des raisons de la savane, on a besoin du feu pour la gérer. Donc, il faut faire attention entre la gestion traditionnelle de certains milieux et des gestions qui sont peut-être un peu plus récentes, comme par exemple la déforestation ou comme apport toute la régulation par le feu en Asie, qui font des nuages toxiques absolument considérables sur toute l'Asie. Si on va à Chiang Mai en fin de saison des pluies, on est dans un brouillard, mais ça sent la fumée. Et on a à chaque fois des problèmes de santé publique dans les villes du nord de la Thaïlande. En fait, c'est simple, c'est quand on prend un vol, qu'on irait de Singapour ou on irait de la Malaisie pour aller jusqu'à Hong Kong, on passe au niveau la nuit des feux de forêt, mais on passe sur l'eau au niveau des bateaux qui sont en train de pêcher et on voit comme si on avait des villes sur l'eau pour pêcher les calamars. Donc, en même temps, c'est aussi, on vide les fonds sous-marins. Alors, pourquoi aussi on continue encore dans ces histoires globales? Pourquoi en fait relier aussi ces relations entre diversité et biodiversité et santé? Les papiers Doune et d'autres papiers montrent très clairement qu'on a une très bonne corrélation entre la biodiversité, en termes de mammifères et oiseaux, et la diversité en pathogènes locaux. C'est-à-dire que plus un pays est riche en biodiversité, plus il est riche en maladies infectieuses pour les humains. Ce qui veut dire qu'il pose tout de suite les problèmes de conservation qu'on a derrière. C'est-à-dire d'avoir des politiques de conservation, ça veut dire aussi on va conserver les pathogènes. Et ça, on est dans des problèmes politiques des fois importants, y compris en Europe. En Europe, on a regardé à nouveau, on a cette belle corrélation entre la diversité parasitaire et le nombre de maladies infectieuses sur les pays européens. Donc même chez nous, on a ça, on n'a pas besoin d'aller dans les tropiques. Mais quand on regarde à niveau... Ici, des cartes qu'on connaît bien, la richesse en mammifères sur toute la pourtour de la planète. Plus c'est foncé, plus c'est riche. Donc, région intertropicale, on n'est pas étonné. Mais après, dans ce papier de Schipper, malheureusement, c'est encore plus grave. Maintenant, on s'aperçoit qu'il y a des hotspots de biodiversité en danger. Quand on regarde ici, c'est encore une fois l'Asie, et spécialement l'Asie du Sud-Est. Où là, je travaillais en Thaïlande, je le disais à certains, 80% des mammifères sont en voie d'extinction, donc 80% des provinces thaï. Le rapport qui vient juste de sortir, il n'y a même pas une semaine, je crois maintenant, le Living Planet, montre encore des tendances qui vont encore plus, de façon encore plus dramatique, ou à peu près, donc si je me rappelle bien, c'est ça, oui, plus de 50% des espèces terrestres montrent un déclin. Donc un déclin très, très fort. Donc ça va plutôt dans le mauvais sens. C'est-à-dire que je reprendrai, hier on avait entendu quelque chose sur l'optimisme et le pessimisme de Churchill. Moi je ferai la différence aussi entre un pessimiste et un optimiste. Un pessimiste il dit ça ne peut pas être pire. Et un optimiste il dira mais si, mais si. Et à partir de là, on a aussi les problèmes de représentation. Et ces problèmes de représentation sont vraiment importants. Je vous remets encore une fois comment la biodiversité est vue par les écologistes, même les écologistes de la santé. Elle est vue comme ça. Elle est vue, la santé dépend de la biodiversité. Quand la phrase de Einstein, hein, si les abeilles disparaissent, en fait c'est réel, ça se passe dans certaines vallées du Népal, et ben en fait les humains sont obligés de travailler pour polliniser les arbres. Ce qui a été fait gratuitement par la nature, il faut bosser maintenant pour le faire. Et puis, ben, souvent, les maladies vues par les épidémiologistes, ben, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est extrait évidemment des journaux, on en parle, hein, Fear and the Flu, mais ça, c'est extrait d'un papier dans une très bonne revue fait par un chercheur épidémiologiste. Ça ne fait pas très peur. Puis là, on a l'écologie de la santé telle qu'elle est montrée dans cette revue, donc fait par un dessin qui est quand même absolument remarquable. On a en fait un humain qui a son sang et son œuf complètement relié avec tous les animaux, mais où il y a une chauve-souris qui lui chie sur la main. C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. C'est ça, en fait, comment peuvent être représentées aussi la santé. C'est ça aussi où des contradictions qu'on a entre chercheurs et entre la réalité. L'année dernière, il y a eu ce gros papier qui était sorti pour, en fait, ils ont commencé à faire des nouvelles méthodes, les NGS, sur la recherche de virus. Ils ont trouvé potentiellement plus de 300 000 espèces de virus chez les mammifères, et spécialement chez les chauves-souris. Donc, c'est-à-dire qu'ils multiplient par 10 le nombre, à moins de nombre de virus connus. Et ils vont jusqu'au présent et disent, regardez ce que ça coûterait. En fait, financez-nous, ça ne coûte que 4 milliards de livres sterling, ça coûtera beaucoup moins cher qu'une pandémie. Un an après, on a Ebola. Ebola, ce n'est pas un problème de chauve-souris. Ce n'est pas un problème qu'on ne connaissait pas ça. Et en même temps, ils demandent 4 milliards. Et là, pour l'instant, regardez un peu sur les informations combien on donne pour contrôler. Ebola, c'est un problème de santé publique, de déstructuration des santé publiques et de déstructuration du lien social par rapport à des guerres civiles. Et donc, l'impossibilité d'avoir confiance dans l'autre et dans les soins. Et puis, on a ça. Là, juste en ce moment, qui nous fait la belle chose. Des bouquetins qui ont la brucellose, donc à Bercy, du côté du parc. Et qu'est-ce qu'on propose, hein, le préfet et tout, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'abattage total, quoi. Donc, c'est-à-dire, alors qu'on sait très bien que pour d'autres choses en écologie de la santé, l'abattage n'est pas forcément la meilleure mesure de dissémination, en fait, spatialement d'une maladie qui a effectivement des conséquences, hein, locales. Pour la brucellose, c'est important pour les éleveurs. C'est aussi, on a des conflits. Donc, on est aussi dans des situations de conflit, dans des situations de prise de décision qui ne sont pas toujours faciles. Et on a les controverses scientifiques d'un autre côté. Les controverses scientifiques, elles sont pleines dons, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de résultats très, très prometteurs sur l'effet de dilution, en disant une augmentation de la biodiversité, on va avoir diluer les pathogènes et en fait avoir moins de transmission. Et on a eu quelques vers les humains, donc on a eu les papiers évidemment qui étaient sortis par le groupe de Osfeld et Felicia Kissing, qui ont travaillé sur la maladie de Lyme, qui étaient vraiment les premiers à la mettre. Puis on a des belles choses qui ont été faites aussi sur le West Nile aux États-Unis, où en fait en augmentant la richesse en oiseaux dans un comté, on a une baisse de l'incidence humaine en West Nile. Très content, mais maintenant les critiques, on est en plein dedans, sont plutôt critiques, réfutations, et un gros pessimisme. Alors ça tapait avec quelques papiers pour dire que c'est pan de gloss, pour dire aussi des méta-analyses qui disent qu'en fait que tout ça, c'est simplement idiosyncratique, c'est des résultats locaux qui n'ont aucune portée générale. Un papier qui est peut-être beaucoup plus sérieux, qui montre l'absence de données. C'est le papier de Cardinal et de tout le groupe, donc surtout avec Michel Leroux, mais c'est surtout Gabriel Maes qui est là, et pour en fait montrer que la relation qui existe entre biodiversité, contrôle aussi bien des pathogènes en milieu agricole que les pathogènes humains, tout ça, elle est totalement... On n'a pas de vrai bon lien. Donc on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Donc là, c'est quand même un souci par rapport à... Pardon. Donc, c'est un des gros soucis. Et puis, des papiers qui viennent sortir, qui sont encore plus impressionnants. C'est par exemple ce papier de PLOS qui est sorti aussi l'année dernière, qui fait sur des bases de modélisation qui montrent... Alors, il y a un papier, dans ce que j'oublie de remettre, qui vient de sortir aussi dans PNAS, sur les mêmes aspects, qui est aussi une controverse, qui montre que si on augmente l'effort de conservation, notamment de la forêt tropicale, en Amazonie, on va augmenter la malaria et le nombre de morts. Donc ça veut dire automatiquement qu'on a un conflit très fort entre des aspects de conservation et des aspects de gestion de la malaria. Et si en fait quelqu'un doit prendre une décision, un gouverneur, entre un projet de développement, transformation de la forêt et des coûts en fait, de réduction de la santé, ça va être vite fait le choix. Donc, et ça va jusqu'à certains, donc de nos collègues qu'on connaît très bien, qui disent que c'est un mythe que de considérer que la biodiversité peut protéger, la conservation peut protéger sur les maladies et sur sur les maladies, que sont en fait la biodiversité produire des services écosystémiques de régulation. On en reviendra après. Donc voilà le paysage qui n'est pas très, très optimiste, mais qui est en même temps un défi important. Ça, c'est du global. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau local. Et là, on s'aperçoit qu'au niveau local, on est relativement démunis. Donc, c'était un peu l'idée qu'on avait eue avec quelques-uns de travailler ce projet. Donc, on a choisi évidemment l'Asie du Sud-Est parce que c'est vraiment un hotspot d'émergence, un hotspot, le SRAS, la grippe aviaire, on en a tout un paquet hein, qui viennent de là, quoi. Des changements de biodiversité considérables, grande variabilité des systèmes, d'écosystèmes, puis un endroit où il y a du aspect changement climatique, mais surtout lié au régime de mousson qui vont vraiment très impacter la région. L'intérêt aussi de travailler en Asie du Sud-Est, c'est une grande diversité de langues, et là je ne vous ai pas mis encore, mais aussi on a une très bonne corrélation entre la diversité linguistique et la diversité biologique. Sachant aussi que la diversité linguistique est en danger, 50% de ces langues vont disparaître d'ici le milieu du millénaire. Enfin, pas du centenaire, hein. Ça va aller très très rapidement. Donc c'est un endroit aussi intéressant. 2004, Navjot, qui est malheureusement décédé, avait commencé à faire un papier qui a fait beaucoup de bruit sur montrer que l'Asie du Sud-Est, c'est un désastre pour au niveau de la biodiversité. Ça a été revu l'année dernière pour nous montrer que c'est vrai. Ça va vraiment mal, et essentiellement par des aspects d'intensification agricole. Alors, si on reprend juste un petit peu global, on les a repris un peu ces données, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Qu'effectivement, on a une bonne corrélation entre la diversité des pathogènes et la diversité biologique ou la diversité culturelle. On le trouve bien. Par contre, si on s'intéresse vraiment aux épidémies et pas qu'à la richesse, là, on s'aperçoit que les épidémies sont corrélées à des proxys sur la baisse de biodiversité. Notamment, on a une corrélation positive entre le nombre d'épidémies, maladies zoonotiques et le nombre d'espèces en danger, UCN, ça vaut ce que ça vaut. Et on a une décroissance, une augmentation du nombre d'épidémies avec des maladies liées à des vecteurs bornes, liées en fait avec des arthropodes, en liaison avec la surface forestière. Donc, qui ont l'air de montrer qu'effectivement, un pays est riche en biodiversité. Il a beaucoup de pathogènes, mais si en même temps il est en train de perdre sa biodiversité, le nombre d'épidémies augmente sur les 60 dernières années. Il y a quelque chose, mais c'est encore au niveau global, et on ne va pas du tout dans les mécanismes, mais quand même, l'écologie, c'est d'aller dans les mécanismes. C'est pas que la macroécologie. Et puis, alors j'ai remis ça parce que pour hier, donc si on s'intéresse à la variabilité climatique et sur l'ENIO, on a la chance d'avoir des séries temporelles et à l'échelle locale sur toute la leptospirose, et on s'aperçoit qu'effectivement, on a les 6 mois sur la relation entre les épidémies et l'indice de El Niño, La Niña, mais surtout qu'en fait, voilà ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une phase où on va avoir une décroissance de la mousson globale, mais une augmentation des événements extrêmes, de la variabilité climatique. Donc on a travaillé sur ça sur pas mal d'années, maintenant, enfin 7 ans à peu près, 7-8 ans. On a pris les modèles rongeurs, pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont partout, les gens les connaissent très bien, ils les mangent ou les mangent pas, ils font la vente, et on a plein de parasites qui sont associés, la peste, les antivirus, les leptos, le typhus des broussailles, typhus murin, donc plein de choses. Et l'idée, justement, c'était d'aller travailler et d'aller aux échelles locales, c'est-à-dire d'aller sur le continental, de faire des sites, 10 par 20 km, développer des land cover, piéger les rongeurs, saison des pluies, saison sèche, les déterminer et tester tout, c'est-à-dire protistes, virus, bactéries, prions même, helminthes, arthropodes, tout ce qui pouvait en fait circuler chez eux, mais aussi chez les humains. Et puis en développant des land cover, redévelopper les land cover du passé. Donc ça, ce qui était pas mal, parce que si on regarde les land cover du passé, exemple, Mont-Dolkiri, normalement un parc national, 1988, Anvers, c'est la forêt, vous vous en doutez. Voilà ce qui se passe 10 ans après, et voilà quand on y a été. Là, je vais retourner là, j'ai peur, parce que la route a été finie. Donc c'est une route qui va sur le Vietnam, donc, c'est-à-dire tout est bon pour que la forêt finisse de partir là-bas. Donc évidemment, on peut faire plein de choses, c'est-à-dire quand on a des land cover, on peut faire voilà, ce qui est vraiment de l'écologie épidémiologique, on peut s'intéresser vraiment où sont les rongeurs, donc les vecteurs, où sont les rodent-borne diseases, qu'est-ce qui explique en fait entre les liens du paysage, du structure du paysage, sur ces incidences de différentes maladies, vu du côté des rongeurs. On peut prendre aussi l'influence du passé, puisqu'on l'a fait, sur l'actuel. Puis on a pas mal d'autres choses qu'on peut faire. Et puis on peut commencer à s'intéresser aux humains. Donc ça, c'est ça, ce projet depuis 2013 qui a commencé, où là, en fait, on commence, ben là, on a des très bonnes relations avec les hôpitaux locaux qui nous ont donné, enfin, carrément, je suis venu, je travaille sur la lepto, là, c'est super, ben, nous, on a des cas de lepto, revenez cet après-midi, et j'ai les données sur 200 villages, sur les 10 dernières années, le nom des habitants, direct, sur une clé, je peux les contacter, j'ai leur numéro de téléphone, donc pour faire ça. Mais ce qui est super intéressant, évidemment, de pouvoir lier sur des land cover, quelles sont les dynamiques des villages en même temps, mais aussi leur santé et les liens avec les humains. Donc là-dedans, ce qui permet d'avoir sélectionné plusieurs villages, de travailler vraiment sur les représentations, donc nos collègues sociologues, anthropologues, quelles sont les représentations et les connaissances autour de la biodiversité, mais autour évidemment des maladies infectieuses, de continuer à travailler sur 2 villages où là on peut faire réellement du One Health et de Co-Health sur le terrain, c'est-à-dire on vient avec un groupe, des médecins, des vétos, des écologues, des gens qui font du sol, on fait des interviews, des anthropologues, et on fait aussi même des mesures sur la circulation des résistances aux antibiotiques. Comme là on a pu voir qu'on a en fait une résistance globale aux antibiotiques. Et puis, vers de l'écologie, de la participateur, de la cartographie participative, c'est-à-dire que on a des paysages, et comment les humains sont sur ces paysages, comment les maladies sont sur ces paysages, comment les rongeurs sont sur ces paysages, mais aussi comment les gens perçoivent leurs paysages, qui est très important dans la dynamique même de ces paysages et de ces relations. Et donc là-dedans, on a une étudiante qui a beaucoup travaillé pendant un an pour voir en fait quel était le schéma des systèmes de santé, quels étaient les schémas comportementaux de la modélisation de ces villageois par rapport à la santé, par les spécialistes de la santé, qu'ils soient de l'hôpital, mais qu'ils soient locaux, c'est-à-dire les soigneurs ou ceux qui parlent aux esprits, et puis où sont les dangers, où eux mettent les dangers, comment ils perçoivent leur environnement, comment ils perçoivent leurs choses. Donc ça, c'est les travaux qui sont vraiment en cours. Attends. Je finirai, c'est les perspectives. Donc nos perspectives, et ça va être pour travailler cet après-midi, je pense qu'on a plusieurs points qu'il faudrait discuter si on veut vraiment monter quelque chose qui soit aux interfaces et qui soit en fait, qui nous regroupe un peu tout. On ne sait pas encore très bien intégrer des cartes. On en a vu beaucoup, je vous en ai présenté beaucoup, mais intégrer des cartes entre... Alors si, on a des choses qu'on sait faire, hein, du socio-économique, du land cover, des diseases, ça on peut faire. On peut avoir des cartes génétiques, c'est-à-dire comment en fait les maladies, même en termes de structuration génétique, même les humains, on peut avoir des cartes culturelles qui sont faites, mais aussi on a des cartes conceptuelles, c'est comment les gens perçoivent leur territoire, mappent leur territoire, qui sont des fois totalement non reliés et la plupart du temps, non reliés avec les cartes administratives. On n'a jamais fait des cartes administratives qui regroupent des cartes culturelles. Le but des États-nations est de casser ça, y compris la France, de casser ça. Donc en fait, on a une déconnexion totale entre la structure administrative et la structure de biodiversité et culturelle, dans tous les pays, pratiquement. Ce qui pose des problèmes après de gestion, parce qu'on va demander à gérer ça. Mais ces ensembles-là ne sont pas gérés. ne sont pas gérables en l'heure actuelle. Et puis des choses qu'on va aller, justement ça, comment on peut mapper, enfin faire de la cartographie des services écosystémiques. Et là, on a un autre souci, on en discutait aussi avec Jean-François hier, donc qu'est-ce que c'est ces services écosystémiques? C'est en fait une représentation, c'est comment les gens, les personnes, utilisent ou se représentent les fonctions, les écosystèmes en termes que pourvoyeurs de services qui sont pour leur sécurité, pour leur bien matériel, pour leur santé et pour des bonnes relations sociales. Et on a tout un ensemble de services écosystémiques qui ont été faits, qui ont été des services de provision, nourriture, habillement, des services de régulation, le climat par exemple, qui en est un dedans, ou l'eau, et puis des services de maladie, régulation des maladies, et des services culturels, parce qu'en fait, on aime bien des paysages, on veut les garder, on est bien. Si on est devant un truc qui est moche, on est mal, on a des problèmes de santé psychologique, et on a besoin par contre de garder des endroits qui sont des services spirituels, ou de bien-être. Là, on a un gros souci, parce qu'en fait, on ne sait pas faire des services écosystémiques de régulation de maladies. On ne sait pas faire, pourquoi? Parce qu'on n'a pas le lien. Si on fait ça, on aurait en fait quelque chose qui serait d'un côté des fonctions d'écosystème qui iraient de climat, énergie, qui nourrait après sur la fonction, comment tout ça va se répartir entre une biomasse naturelle et une biomasse cultivée, donc c'est au travers du système d'usage des terres, et puis qui va nous faire ces liens entre communauté animale, communauté de plantes, et puis parasites prédateurs, et puis tout ça qui va... Et d'un autre côté, on a ces services écosystémiques qui sont en fait l'usage que font les gens des animaux, des plantes et des parasites, des prédateurs, du contrôle, mais au travers en fait d'impositions, de choix socio-économiques, politiques, de représentation, et tout ça pour quand même assurer d'abord leur richesse et leur santé. Donc ça, les deux, les croisés des deux, on ne sait pas faire. C'est vrai, hein, on ne sait pas faire. Donc ça, c'est un enjeu. Et l'autre enjeu que je vois, c'est qu'en fait, c'est un peu ça que j'aimerais bien qu'on continue à travailler, c'est qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? On a besoin de savoir quelles vont être ces dynamiques d'usage des sols, d'usage en fait des terres. Pourquoi faire quoi? Et qui sont en fait sous pression de différentes choses. Lois et régulations internationales globales. Je vous ai parlé tout à l'heure au tout début de la gouvernance globale. La gouvernance globale se décline dans les gouvernances régionales, nationales, impact ou non les décisions locales, notamment dans le land planning ou dans d'autres aspects. On a parlé aussi hier du problème de santé, c'est-à-dire comment en fait les gens vont faire aussi le diagnostic de santé sur un territoire. Donc c'est très territoire. Tout ça, comment on va se faire sur maladies infectieuses, qui sont sur des aspects de régulation, plantes, animales ou humaines, et puis tout ça qui peut être en conflit avec la conservation. Et tout ça, en fait, ne sera dans une dynamique en fait, évolutive que parce qu'en fait, on a des perceptions. Les gens ont la perception de leur territoire actuel et passé et se projettent vers la construction d'un territoire suivant. Donc, il faut se recentrer sur les territoires. C'est-à-dire que maintenant, on se retrouve avec, je pense, avec vraiment un temps, et on est là pour le faire, quoi, entre pas mal de personnes ici qui ont une vision globale de ces drivers, et puis qu'on doit retravailler sur le territoire avec localement les gens où ils veulent aller. Et là, à partir de là, on pourra vraiment aller vers peut-être, en tout cas, la production de scénarios. On peut travailler sur des scénarios qui sont partagés. C'est de la démocratie locale. Ils verront les conflits. Ils voient les conflits. En tout cas, on peut les mettre en évidence. Et on choisit après peut-être des services écosystémiques de régulation de la santé. Et ce serait vers vraiment des approches d'écosystème et de santé. Et puis, je finirai avec un rêve, le même rêve que Jean-François a présenté. Il nous faut des données au long terme. Donc ces endroits, ces sites sont en fait, pourraient faire un réseau de stations, quoi, d'expérimentaux. Mais je vois par exemple, il y en a un qui vient juste d'être financé par la NSF et avec le NIH, qui s'appelle NEON, où là, il va y avoir en fait tout un design qui a été fait pour 20 ans de screening des vecteurs et des pathogènes associés aux rongeurs sur toutes les États-Unis. Ça, on en est loin. Je rêve pour l'Asie, mais voilà. Donc, je remercie plein de monde. Ça, j'ai de la chance d'avoir énormément d'équipes asiatiques et que c'est un vrai bonheur. Ce qui est bien avec les Asiatiques, ce sont des gens très simples. Pas comme les Français, par moment. Et non, c'est pas une plaisanterie, mais c'est vrai que c'est vrai. Et Phnom Penh, si vous êtes présent, vous pouvez venir. Et puis, voilà, je vous remercie.
On va avoir le temps pour quelques questions. J'étais étonnée que tu n'aies pas mis une figure avec toi mangeant du rat, comme on a bien voulu te mettre dans le documentaire l'autre fois. C'est passé à la télé. Oui.
Donc, tout d'abord, enfin, j'ai une question, mais j'ai aussi un commentaire qui ira dans le même sens. Tout d'abord, merci pour cette présentation très rafraîchissante. Vous connaissez tous les quatre programmes internationaux qui sont World Change Research Programme, International Human Dimension Project, qui est la dimension socio-économique et sociale aux programmes internationaux, IGBP, International Geosphere Biosphere Programme, et puis pour notre part, Diversitas, qui s'occupe des problèmes de biodiversité. Donc j'étais en début de semaine à Séville pour clôturer ce programme Diversitas, bien entendu, avec d'autres représentations, d'autres personnes. Et ces quatre programmes s'arrêtent pour fusionner en un seul programme qui est Future Earth. Et donc ta présentation résume bien ce qui se passe à l'échelle internationale. Et on en revient, on ne peut plus considérer le changement climatique et ses impacts seuls. Je ne vais pas aller plus loin parce que tu l'as formidablement bien illustré. Donc il y a des choses qui se passent au niveau international et donc il faut aussi suivre. Moi, ma question porte, bon, c'était mon commentaire, il y a des choses aussi dans les organisations internationales qui se passent et qui sont demandées aussi de la part d'autorités internationales. Ma question est relative à une présentation concernant les problèmes de déforestation. Alors, je ne sais plus où, je ne connais pas ce papier en particulier, mais moi, il me semble qu'il y a une incompréhension sur les problèmes de déforestation et de ses impacts. Pour avoir travaillé sur ce sujet-là au Brésil en particulier, on déforeste totalement une forêt, la forêt amazonienne. On réalise un écosystème monotone au même titre qu'on y mettrait du goudron. Voilà. Et donc, du coup, la forêt est totalement déforestée. On installe des pâturages avec des vaches et très peu d'humains, finalement, en très faible densité. Donc, une déforestation totale conduira à une absence quasi de maladies. Ce n'est pas la déforestation per se qui est intéressante à analyser, c'est les marges, les écotones, donc la dimension fractale entre les contacts entre les populations humaines et la forêt. Et en général, en écologie du paysage, c'est exactement la même chose qui se passe. Donc ce n'est pas la forêt per se. Donc est-ce que tu peux...
L'Asie du Sud-Est, quoi. Ou dans certains endroits, ben, on a des aspects où c'est de la fragmentation. Petit à petit, on voit, alors j'ai d'autres photos, hein, on voit petit à petit des petits coins forestiers. C'est du grignotage qui se fait sans arrêt et où on maintient encore une forte biodiversité. Mais on voit des changements faits dans les relations pathogènes humains et pathogènes réservoirs. Et puis on a des exemples tout à fait classiques. Enfin maintenant, avec l'Indonésie ou la Malaisie, là, on brûle tout. Et on transforme en panier à huile. Avec d'autres soucis, parce qu'en fait, ce n'est pas du sang pathogène. En fait, ce qui se passe, c'est ce qui peut se passer, c'est si on a de l'agriculture intensive, on va avoir en fait les maladies des plantes intensives qui vont proliférer. Si on a de l'agriculture intensive d'animal, on va avoir les pathogènes de ces animaux qui vont être faits, potentiellement zoonotiques. Si on fait du palmier à l'huile, alors qu'est-ce qu'on va favoriser ? On va favoriser un rat, un nitidus, qui va en fait proliférer et qui, lui, va en fait faire circuler des choses. Quoi. Donc les zoonotiques, enfin les espèces qu'on peut dire qui aiment bien les synanthropiques, ceux qui aiment bien les humains, en fait, on le voit bien, les rats, et tout, ils seront toujours là. Certains animaux seront toujours là. Donc on va perdre une biodiversité, on va perdre une diversité de pathogènes, mais ce qui va rester ne sera plus contrôlé.
Comment tu vois, je voudrais que tu dises un petit peu plus sur la partie, le lien avec la partie climat.
Parce que bon, il y a de la variabilité, la variabilité peut être naturelle, enfin est naturelle plus est modulée par les activités humaines, et en plus il y a le lien local avec le land use va changer lui-même localement le climat. Mais est-ce que tu peux expliciter dans l'ensemble que tu vois finalement où sont les problèmes clés? Est-ce que c'est lié à la quantité d'eau, les pluies, enfin comment est-ce que tu peux expliciter un peu plus ce lien climat et...
C'est clair que ça, parce que je ne suis pas spécialiste, mais ce que j'ai entendu hier, on les a eus, quoi. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a de l'énergie, donc on a de l'ensoleillement. Donc moi, j'ai compris que le fait qu'on ait des particules, que le fait qu'on ait de l'ozone, que le fait que ça va en fait avoir une incidence sur l'énergie locale qui va arriver, pas que sur la santé, mais sur l'énergie, sur le fonctionnement. La pluie est absolument plus température, quoi. Donc c'est plutôt, si on va avoir une démarche de fonctionnement des écosystèmes, je pense qu'on a besoin de connaître une meilleure précision de l'énergie. C'est-à-dire comment tout ça va se faire en termes énergétiques et en termes de pluie, sur pluie et énergie qui vont arriver sur un territoire.
Donc on pourra voir cet après-midi comment.
Ouais, mais à partir de là, si on veut faire du fonctionnement, on a besoin de ça, quoi. Et puis après, ben, c'est effectivement, on a du land use. Comment ça, le land use va réaffecter si des boucles de rétention? J'en sais absolument rien, quoi. Et puis, tu posais la question hier, c'est-à-dire, où c'était Cyril, c'était ces problèmes de mailles. C'est-à-dire que tu n'aimais pas trop quand c'était trop local ou quand c'était inféré trop localement. Enfin, des problèmes de modélisation qui étaient liés